Appel sur l'actualité est à Ouagadougou. Juan Gomez.
Bonjour à tous, merci au public d'être venu aujourd'hui dans cet amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo. Je signale évidemment à tous ceux qui nous écoutent que le protocole sanitaire est respecté. Des masques ont été distribués à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre dans cet amphithéâtre. Alors, pour notre deuxième et dernière émission ici au Burkina Faso, j'ai demandé à deux artistes d'être les rédacteurs en chef d'Appel sur l'actualité. Ce sont donc eux qui ont choisi les sujets qui vont être débattus. Deux artistes qui, chacun à leur manière, contribuent à interpeller la jeunesse, mais aussi plus largement l'opinion publique ici au Burkina Faso. Merci de les accueillir comme il se doit. Merci d'accueillir Malika la Slamazone et Basit Soul. Bonjour à tous les deux. Bonjour Malika.
Alors bonjour Gomez, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin et bonjour à vous qui êtes dans la salle.
Basit Soul.
Bonjour Juan. Université de Ouaga, ça va ?
En tout cas, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux précurseurs sur cette scène de l'université Joseph Kizerbo. Malika, vous avez été l'une des premières, si ce n'est la première, à imposer le slam sur la scène musicale burkinabé. 2012, premier single. 2016, premier album, Slamazone. Vous aviez à l'époque 23 ans. C'est bien ça. Basit Soul, alors vous, déjà 24 ans de carrière. Vous avez été le premier rappeur à distribuer un album sur le marché du disque burkinabé. Vous êtes en quelque sorte le père fondateur du rap ici au Burkina Faso. Vous êtes tous les deux des artistes engagés et vous le revendiquez. Malika, vous êtes plutôt engagée, on va dire, socialement.
C'est ça, oui. Très engagée socialement. Et voilà, pour en tout cas donner ma touche comme ça au développement de mon pays.
Vous avez même créé une fondation.
Oui, je suis présidente d'une fondation, la fondation Slamazone, oui, qui œuvre comme ça dans l'humanitaire depuis 2019 et qui, en tout cas, a fait beaucoup d'activités dans ce sens-là.
Vous venez en aide aux enfants qui vivent dans la rue, aux enfants démunis, déscolarisés. Vous avez créé la semaine de l'albinos ici au Burkina Faso.
Exactement, très engagée aussi pour les albinos.
Et les non-voyants également.
Oui, les personnes vivant avec un handicap visuel. Et nous avons également fait une salle de consultation pédiatrique au niveau de l'hôpital Soro Sanou de Bobo.
Oui. Basit Soul, vous êtes-vous clairement engagé politiquement ?
Oui, et je ne suis pas seul. Je
crois que... bien sûr, vous, oui, bien personnellement, sûr, vous l'êtes.
Bien sûr, engagé socialement, engagé politiquement, et comme vous l'avez dit, un vieux de la vieille sur la scène musicale, sur la scène rap, et quand je vois les visages, quand j'entends les âges, je me rends compte que la plupart de ceux qui sont ici n'étaient pas nés quand je démarrais ma carrière.
Et donc, du coup, ça vous fait bizarre ce matin, vous avez pris un coup de vieux, c'est ça ?
Ça me fait plaisir, bon, parce que je suis passé également ici à l'université de Ouagadougou. Oui. Ça me fait énormément plaisir de voir que les choses ont évolué à ce point-là.
En tout cas, Basit Soul, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous êtes membre du Ballet Citoyen, faut-il le rappeler, c'est ce mouvement qui a joué un rôle capital dans les manifestations de 2014 dans ce pays qui ont abouti à la chute du régime Compaoré. Dans une demi-heure, Basit Soul, vous lancez le débat sur la question des troisièmes mandats présidentiels en Afrique. On ne compte plus le nombre de chefs d'État qui, au terme de leur deuxième et dernier mandat, modifient la Constitution pour essayer de rester au pouvoir en briguant un troisième, voire pour certains même un quatrième mandat. On en débat donc dans une demi-heure avec les étudiants de l'université. Mais d'abord, on commence avec vous, Malika la Slamazone. Vous souhaitiez nous interpeller et débattre sur le sort des déplacés ici au Burkina Faso. 1 million de personnes qui ont fui les violences djihadistes et intercommunautaires, ce sont les chiffres officiels.
Exactement. Bon, vous connaissez déjà les conditions sécuritaires, hein, qui ont commencé en 2017, ensuite 2018, avec une gravité en 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, nous avons officiellement 1 147 000 déplacés internes. Ce sont les chiffres officiels aujourd'hui. Et vous savez que ce flux-là, qui vient s'ajouter à une population aujourd'hui, il faut le dire, hein, le Burkina Faso a 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc moins de 2 dollars par jour. Et ce flux migratoire qui vient s'ajouter, il y a des conséquences à tous les niveaux. vraiment à
des conséquences qui se ressentent d'ailleurs ici même à Ouagadougou, dans
la capitale. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État fait ce qu'il peut. En tout cas, pour ces personnes déplacées là, je pense que chacun de vous a dans son quartier ou en tout cas dans une localité vu des tentes comme ça installées pour ces personnes déplacées. Il y a également des centres qui ont été ouverts, des centres de formation professionnelle pour ces personnes déplacées là. Et visiblement, c'est insuffisant.
Et on va en parler, évidemment, avec le public. Basik Soul, vous intervenez quand vous le souhaitez, évidemment. Hein. C'est le thème choisi par Malika, mais libre antenne, vous prenez le micro quand vous le souhaitez. On va commencer avec Mohamed. Bonjour, Mohamed.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, Mohamed, et tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous nous disiez, ça paraît complètement incohérent d'être déplacé dans son propre pays.
Effectivement, il y a une incohérence dans le terme, on peut pas être déplacé dans son propre pays. Mais vu la gravité de la situation qui s'impose à nous, les gens sont obligés de fuir leur localité pour se retrouver dans des lieux un peu plus sûrs. Et ce qui fait qu'on a un flux migratoire vers les grandes villes du Burkina. Et cela doit effectivement changer parce que chaque population a besoin d'être là où il devait être. Oui. Et c'est ce qu'on dit, en Amoré, on dit, quand on dort sur la natte du voisin, on dort par terre. Donc chacun doit être chez lui pour contribuer au développement du pays.
Je vois plein de têtes dans cet amphithéâtre acquiescer à vos propos. Les gens sont d'accord. Est-ce que vous avez l'impression, Mohamed, qu'il y a une réelle prise de conscience sur le sort et le calvaire des déplacés? Est-ce que tout le monde est au courant et a conscience du drame, déjà du drame et du quotidien de ces déplacés?
Effectivement, je pense que tout le monde est conscient du drame qui se passe, puisque même dans les rues, quand on passe, on les voit. Et ça veut dire qu'ils font partie intégrante de nous.
Ouais, on les voit au carrefour, demander un peu d'argent.
Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a effectivement un sérieux problème qui les a fait quitter leur terre natale, leur région natale pour se retrouver ici. Et donc cela, effectivement, est quelque chose qu'on doit changer.
Oui, Malika.
Oui, un peu pour rebondir à ce qu'il a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, à un feu, tu vois une personne, mais l'année qui suit, tu en vois 10. Et c'est de plus en plus grandissant. C'est des personnes comme ça déplacées, un peu plus de la région de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, un peu de la boucle du Mouhoun et de l'Est. Et comme il a dit, il y a peut-être des centres insuffisants, parce que là, on parle de 1 million et quelques de déplacés. Et là, il faut se demander peut-être c'est quoi la solution.
Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il a dit qu'il déferle vers les grandes villes. Mais je crois qu'ils sont davantage dans les lieux de sécurité qui sont autour de leur village. Donc voilà, autour de Kaya, ils ont beaucoup été accueillis.
Kaya, c'est aujourd'hui la deuxième ville qui accueille le plus grand nombre, de déplacés.
Oui. Exactement, Kaya et sa périphérie, oui. Fada. Dans l'Est. Et si on les voit à présent dans les grands centres urbains, notamment Ouaga, ça veut dire que la situation est tout à fait devenue catastrophique.
Et est-ce que ça ne crée pas tout de même une tension dans les villes d'accueil, Kaya, Djibo, ici à Ouagadougou, puisque tout d'un coup, ces villes qui sont déjà, on va dire, saturées avec leurs propres moyens limités, est-ce que ça ne vient pas créer une tension parce qu'il y a une surpopulation du coup qui vient et qui a besoin de moyens supplémentaires et ces moyens, ils ne sont pas forcément là. C'est-à-dire qu'il va falloir que la ville en question, comme Djibo par exemple, supporte cette arrivée de déplacés et parfois ça crée des tensions avec les populations locales.
Ben oui, et les supporte sur le plan alimentaire, sur le plan de l'éducation et sur le plan de la santé. Donc quand on dit comme ça, il y a une surpopulation dans ta localité, je pense que c'est un peu pour ça que l'État et puis les ONG aujourd'hui essaient d'accompagner. Mais quoi qu'il en soit, il y a un taux de chômage déjà très élevé. Voilà pourquoi je salue déjà les centres de formation qui ont été imposés par l'État. Et il faudrait que ces personnes déplacées-là acceptent de se faire former.
Ah parce oui. que j'ai l'impression qu'il y a des réticences.
J'ai l'impression qu'il y a des réticences.
Oui. Alors, justement, vous parliez de formation et de comment occuper au quotidien ces déplacés. Ça. Je vous présente Yasmina. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Vous avez 22 ans.
Oui.
Eh bien, on vous écoute. Allez-y.
OK. Concernant cela, nous pouvons dire que notre constitution garantit le droit à la santé, à l'éducation et à l'alimentation. Pourtant, nous remarquons qu'environ 98% des déplacés ont vraiment besoin d'alimentation. Il est vrai que l'État donne la nourriture et tout, mais nous remarquons qu'environ 122% sont des ménagères, 115% sont des agriculteurs, et il y a 9% de commerçants, 5% d'artisanaux. pourquoi ne pas utiliser ces avantages à notre profit?
Donc quand vous dites qu'il y a autant d'agriculteurs, par exemple, parmi les déplacés, que proposez-vous de concret, par exemple?
Pourquoi pas leur donner des terres, leur donner la matière première, du maïs ou bien du sésame, pour qu'ils puissent déjà commencer. Avec ça, ils peuvent l'utiliser en complément pour pouvoir se nourrir et tout.
Donc faire en sorte que ces agriculteurs déplacés contribuent à leur autosuffisance, mais aussi au développement du pays en allant cultiver les terres là où ils sont accueillis.
Voilà.
C'est ça, si je comprends bien.
Oui, mais sans oublier le fait que l'État ne doit pas profiter de ça pour ne pas résoudre le problème de la sécurité, parce que c'est en réalité à cause de ça qu'ils sont dans cette situation. Il faut impérativement qu'on puisse résoudre le problème de la sécurité pour que chacun puisse être chez soi, se sentir en paix, dans la sérénité, dans la quiétude.
Oui. Malika?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'on puisse régler ce problème d'insécurité là, parce que la plupart des déplacés voudraient retourner chez eux, alors que nous sommes dans cette incapacité là. Et comme elle l'a dit, il faudrait peut-être donner des lopins de terre, mais peut-être qu'on remarque que ces personnes là viennent vers les villes, et vers les villes il n'y a pas de terre en tant que telle. Donc peut-être se reconvertir. Je vais toujours dans le sens de l'État qui a mis en place des centres de formation. Il faut se reconvertir. Ils étaient agriculteurs. Aujourd'hui, lorsque les conditions changent, ils doivent apprendre tout ce qui est profession, je ne sais pas moi, soudure, vendeur de brochettes, mécanicien. Ne pas prendre ça comme un travail dérisoire, mais se réadapter à la situation. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème d'urbanisme, hein, que ce soit à Ouaga ou dans les autres localités, il n'y a plus de terre.
Oui. Est-ce qu'on peut intégrer les déplacés dans les efforts de travail, de la terre, par exemple, comme l'évoquait à l'instant Yasmina? Qu'est-ce que vous en pensez, Basique Soul?
Oui, c'est une excellente idée, mais j'aimerais rappeler qu'il y a un peu de paradoxe. Quand on dit que l'urgence, c'est vrai, elle a dit, c'est de leur apporter une aide alimentaire, c'est de leur apporter des abris, et puis en même temps, inciter l'État à tout faire pour que sur le plan sécuritaire, les conditions soient réunies pour que ces personnes rentrent rapidement chez elles. Donc, je me demande dans quel cadre est-ce qu'on peut, tant cadre de temporalité, stratégie, est-ce qu'on peut s'organiser pour être le plus efficient possible.
Et se posera aussi une question, excusez-moi, c'est de la question foncière.
Oui, et il y a une forte pression foncière déjà, elle l'a dit, dans la périphérie des grands centres, et encore davantage dans les régions où ces déplacés-là se trouvent.
On continue à parler du sort des déplacés. C'est le sujet choisi par Malika Laslamazone aujourd'hui dans Appel sur l'actualité. Sayouba, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes originaire du centre-nord du pays, vous êtes de Kaya.
Oui, effectivement.
C'est bien ça. Et vous êtes au contact des déplacés.
Oui, effectivement, je suis au niveau du conseil provincial de la jeunesse du San Matenga. Et il y a eu une vague de déplacés qui est arrivée et la province, en tout cas, s'est sentie envahie. Bon, si vous me permettez ce terme-là. Donc, il fallait organiser, sensibiliser les populations aux autres à accepter les populations déplacées. Oui. Aujourd'hui, nous avons déjà formé des PDI en métier.
PDI.
Personnes déplacées internes.
D'accord.
Voilà, en métier, notamment la plomberie, menuiserie, bois. Donc, le problème, nous avons toujours des attentes. C'est que nous les avons formés, mais nous n'avons pas la possibilité de les doter en kit d'installation et de fonds de roulement. Le souhait est qu'on puisse vraiment, et bon, ça c'est l'État arrive à sécuriser les zones de départ pour en tout cas amener les déplacés à rentrer chez.
Oui, bien sûr. L'idéal, c'est qu'ils puissent au plus vite retourner dans leur région natale. Malika, ce témoignage, cette réaction.
Comme je l'ai dit, il faut qu'ils arrivent à se reconvertir. Moi, si j'ai été agriculteur toute ma vie et que je me retrouve dans une situation sans maison, sans terre, sans peut-être parents, et que je vais dans un centre où on propose en tout cas de me reformer, de réapprendre un métier, je n'ai pas d'autre alternative que d'accepter.
Mais il y a un choc psychologique.
Ben oui, il y a un choc psychologique.
Qu'il faut prendre en compte.
C'est ça.
Parce que ces personnes, ces femmes ont perdu leur maison, leur bétail.
Ah oui, mais dans ces centres,
bien souvent,
il y a un
leur
accompagnement.
Propre papier d'identité aussi.
Je suis d'accord, mais dans ces centres, il y a un accompagnement psychologique, des accompagnements au niveau de, enfin, on va dire sanitaire, et on vous refait également les papiers.
Oui. Donc il y a tout ça qui est là. À entendre Malika, tout va bien.
Ah non,
en tout
cas, dit que tout va bien.
Tous les moyens sont sur la table
mais
pour réussir.
L'État fait de son mieux, mais il faut dire que l'État ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi on a des ONG, on a des organisations, on a des fondations qui accompagnent. Et l'État, c'est vous, c'est nous. Je pense que ça vient de tout le monde. Hein.
Elle a très bien dit les choses à la fin. L'État, c'est vous, c'est nous. Et Sayuba ne va pas me démentir si j'affirme que le premier soutien des déplacés, ce sont les populations locales. Ce sont les habitants de Kaya, ce sont les habitants de Fada, ce sont les habitants des villages qui n'ont pas été touchés, qui ont accueilli à bras ouverts ces réfugiés-là. Mmh. Et donc, c'est dans cette conjonction d'efforts qu'on pourra sortir de cette situation, qui aura sa solution définitive lorsque le problème terroriste, le problème sécuritaire sera réglé pour de bon.
Ouais. Et vous êtes optimiste ou pas?
Je ne suis pas très optimiste. Enfin, ça va prendre énormément de temps. Ça, c'est mon avis.
Ouais. Allez, on redonne le micro RFI au public. Basile, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Basile. Vous avez 28 ans.
Oui.
Malika et Basik Soul vous écoutent.
Merci beaucoup. Je voudrais vraiment, en tout cas, intervenir sur la question de l'éducation, parce que parlant, bien sûr, des déplacés internes, le moyen le plus absolu, c'est l'éducation pour moi. Parce que, tout simplement, il faut procéder à une intégration. Et si aujourd'hui, nous voyons qu'il y a effectivement des déplacés internes qui résistent vraiment à ces centres de formation qu'on a essayé de créer pour eux, et je pense que c'est parce que, en fait, avec le choc psychologique, il faut prendre un bon temps pour essayer de les intégrer logiquement pour qu'ils puissent effectivement se sentir à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut passer par la solidarité et également les moyens que l'État met en œuvre pour effectivement essayer de recadrer cette question d'éducation.
Parce que l'éducation, c'est un vrai fléau. Il y a plus de 2500 écoles fermées à travers le pays à cause des violences djihadistes, violences communautaires. C'est un chiffre que j'ai vu, je ne sais pas s'il est actualisé ou pas, 350 000 élèves qui ne peuvent plus aller à l'école aujourd'hui en raison du contexte sécuritaire.
Ils ne peuvent plus aller à l'école, mais ils peuvent se former. Aujourd'hui, on le dit partout, hein, l'école n'est plus la seule voie de réussite. Aujourd'hui, même vous, à l'université, on parle plus d'entrepreneuriat. Vous êtes assis en classe, mais vous avez également un métier que vous apprenez. Donc, c'est peut-être inculquer ça à ces enfants-là. Vous avez quitté les bancs, mais ça ne vous empêche pas de réussir en passant par des formations professionnelles. On est d'accord?
Je suis d'accord, mais en même temps, l'État garantit l'éducation pour tous jusqu'à 16 ans.
Oui, mais là, on est dans une situation un peu délicate.
Un peu comme les révisions qui ont été faites pour s'accorder avec le fait qu'il y a des zones où on ne pourrait pas voter lors des dernières élections. Et qui,
voilà. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu
voter
aux élections législatives et présidentielles du mois de novembre.
Et c'est dommage.
Et ce sont des citoyens qui, peut-être, du coup, se sentent exclus. De la vie politique et sociale de leur pays.
Oui, bien sûr, parce que, comme j'aime à le dire, c'est une situation pas normale. Et du coup, on est obligé de faire avec.
On est obligé de faire avec. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais faire avec, c'est bien les actions des fondations, des ONG, des associations. Mais je crois que, et je répète, nous ne sortirons définitivement ou durablement de cette situation que si l'État prend conscience de son rôle régalien.
Si nous prenons conscience.
Mais nous avons des institutions
oui.
qui sont là. Je crois qu'il y a le ministre, à une émission précédente de RFI, il y a le ministre de la Sécurité et qui a dit des choses et on attend encore de voir dans les actes ce que cela va donner.
Bien, on arrive déjà à la fin de cette première partie. Merci infiniment à tous les deux, hein.
Merci,
Malika,
merci.
Basik Soul, surtout ne bougez pas, on va marquer une pause. On va retrouver la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient évidemment dans 10 minutes avec le public et les étudiants de l'université Joseph Kizerbo.